France Culture.
Avec la pollution, toutes ces merdes dans nos assiettes, allons, profitons de ce moment. Demain, ce sera sûrement différent. Vous avez raison. Dernier apéro avant la fin du monde. Tiens, ça fera un bon titre. Mickaël, mention. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Et pourtant, ça n'est pas le titre choisi par notre invité de ce soir, le romancier Mickaël Mention, pour son dernier ouvrage, finalement intitulé « 1500 impurs » et paru aux éditions Belfond. On a parfois tendance, apocalypse de gens faisant, d'avoir de la fin du monde une conception symphonique en panavision. Mention opte, lui, pour l'autre voie, en nous narrant par le menu la fin de tout, mais vécu au quotidien, de minute en minute, par un lot de banlieusards assaillis dans leur immeuble par les victimes d'une pandémie dévastatrice. Chronique en second temps d'émission, signée Élise Lépine et Antoine Guillot. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Bonsoir Mickaël Mention.
Bonsoir.
Je vais vous appeler Michael, sûrement un moment, vous inquiétez pas, c'est l'influence atlantiste qui nous ronge, elle aussi, comme le virus que vous mettez, que vous évoquez dans votre roman. Bah, vous êtes venu souvent à l'émission, ravi de vous retrouver. Ça fait un certain temps que vous n'êtes pas venu. Ce scandale devait cesser. Voilà, c'est fait maintenant. Et vous êtes avec nous ce soir pour un roman pré-post-apocalyptique, 1500 impurs. On va voir quelle est votre vision de la fin du monde, en tout cas de ce qui pourrait lui ressembler. Je vous salue donc. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir.
Élise Lépine, actualité, votre actualité.
Alors moi, actualité, j'ai eu le nez dans le guidon pour la préparation d'un spécial polar du Point à l'occasion de Quai du Polar qui se tiendra dans une semaine et on a hâte. Et donc j'ai préparé un dossier de 30 pages qu'on pourra retrouver jeudi
et qu'est-ce qu'il y a dans ce
magazine.
Dossier de 30 pages.
Et il y a John Langan notamment dont je vous reparlerai.
Très belle auteur.
Fisherman, magnifique livre. Il y a Stephen King, il y a Caryl Ferré. Et il y a un test polar pour savoir quel polar est fait pour nous et on peut tomber sur Mickaël Mention.
Ah bah parfait, on va voir quel est votre...
Quel honneur.
Votre lectorat. Bienvenue Élise, et Antoine Guillot est là également.
Bonsoir.
Quel
François.
Est votre polar à vous, Antoine Guillot? Votre style de polar?
Mon polar à moi, il est poisseux et assez quotidien, effectivement.
Ah bah vous allez vous y retrouver.
Et aussi oulipien,
soir.
Ouais,
j'aime la contrainte.
J'aime beaucoup l'oulipopo.
L'oulipopo, très bien. Oui, l'oulipopo, ouvreur de littérature. Policière
potentielle.
Très bien, ben c'est su. On vous réservera, un de ces quatre, un invité spécial contrainte, spécial oulipopo. En attendant, l'heure est venue d'entendre la vision de la fin du monde selon Laurent Polleret. Voilà, la fin du monde, selon Laurent Polleret, m'a dit, mais pour moi, c'est ça, la fin du monde, c'est pas, on est bien loin des trompettes johanniques et du raffus, c'est une espèce d'infrabasse, de fréquence angoissante. Un jour, peut-être, il nous en dira plus par le son et par l'image. Alors, Mickaël Mention, présenté par Élise Lépine, nos auditeurs le connaissent. Et on va voir pourquoi, on va en parler un peu plus. Élise.
En fait, je vois que le premier livre, c'est 2008, Le rhume du pingouin. Et puis, c'est une arrivée chez Rivage ensuite, avec cette trilogie que vous avez consacrée à l'Angleterre à partir de 2012. Sale temps pour le pays, Adieu demain, et puis Justice pour tous. Et vous avez publié. Après, ça a été un déroulé assez conséquent de polar. Il y aura, je cite Power, par exemple, sur les Black Panthers, qui nous avait beaucoup plu. Ouais. Ça, c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Encore d'autres ensuite. Vous êtes allé voir du côté du western, du côté du roman historique. En tout cas, un auteur éclectique qu'on a appris à connaître et chez qui on a appris à déceler aussi le goût pour la politique et pour les situations de crise. Et puis chez Belfond, vous avez publié Les Gentils et vous venez de publier donc 1500 impurs qui, là, va carrément lorgner du côté de l'épidémie, de ce qu'on appelle l'épidémie de zombies, finalement, si on suit en tout cas la dialectique de Romero. En tout cas, une esthétique que moi, j'aime énormément. Qu'est-ce qui vous a amené vers le roman de genre en général? Et puis, ce qui me paraît assez clair, les moments de rupture en particulier.
Quelle mention?
C'est ma culture de base, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je pense que j'étais à fond dans le genre sans en avoir conscience. Je lisais King à l'âge de 12 ans. Après, le cinéma, bien évidemment, tout ce qui était, par exemple, Carpenter, Friedkin et d'autres. Je pense qu'à l'âge de 16-17 ans, j'étais déjà un fan de genre sans en avoir vraiment conscience, sans savoir qu'à l'époque, c'était considéré comme du mauvais genre. Et il faut savoir qu'à l'époque, je dessinais, je faisais des bandes dessinées, bon, qui étaient surtout des prétextes pour mettre des gros mots et du sang. Mais il y avait déjà toutes ces influences-là qui étaient présentes et voilà. Après, je crois que c'est effectivement quand on évolue dans la vie, on affine un petit peu son regard sur le monde et c'est une sorte de fusion qui s'opère entre certaines valeurs profondes, certaines convictions politiques, un certain amour du genre aussi, certains sens de l'humour aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler.
Mais Carpenter et King, c'est le Carpenter. Si on juge d'après votre dernier roman pour lequel vous êtes notre invité, 1500 impurs, Carpenter, c'est plutôt celui de, comment dirais-je, de Fogg, enfin, avec ces espèces de zombies qui déferlent, ou Cronenberg de Rage, ou le King du fléau. Il y a déjà tout ça dans vos goûts de jeunesse.
Alors en fait, il faut savoir que la thématique des zombies m'a jamais spécialement intéressé. J'aime bien voir un bon film de zombies. J'ai vu la plupart des Romero. 28 jours plus tard aussi, j'aime bien. Quoique je préfère la suite, 28 semaines plus tard, je crois que je préfère. Je trouve qu'il y a davantage d'émotions. Et justement, ce que j'aime dans ce genre de thématique, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà, moi j'ai souvent une démarche de cheval de Troie dans mes bouquins. Je m'empare d'un genre, mais plus pour traiter des choses qui vont être en filigrane ou en coulisses. Voilà, c'est-à-dire que des gens poursuivis par des zombies, ça m'intéresse pas spécialement, mais si on balance quelques éléments politiques, sociaux et surtout beaucoup d'émotions, là ça m'intéresse et je suis client.
Ben oui, parce que vous êtes quand même un romancier politique. C'est la dimension politique, on va le voir, qui vous intéresse dans ces questions. D'ailleurs, si on regarde les trois titres de la trilogie anglaise, ça fait un très bon résumé de 1500 impurs. Sale temps pour le pays, adieu demain et justice pour tous. C'est déjà un résumé de 1500 impurs. Oui, c'est la question politique, puisque la trilogie anglaise, ça posait justement aussi des questions sociales avec cette figure de tueur. Et puis... Power sur les Black Panthers, sur toute la manière dont le jazz, si mes souvenirs sont bons, jouait dans tout cela, c'était aussi évidemment une question politique. Comment arriver à faire passer une réflexion sur le politique beaucoup plus que de se faire plaisir avec de la viande putride et des gens bizarres.
Parce que je pense tout simplement que cette culture-là, la culture du genre, alors qui englobe autant effectivement le film noir que le film fantastique par exemple, pour être assez rapide, tout ça est un vecteur fantastique justement pour les questions politiques et parce qu'on vit une époque éminemment politique. Voilà, je vais pas refaire l'historique, mais on vit une époque, on vit dans un monde de fous, il était temps d'écrire a lu sur cette sur un ce livre monde de fou,
en fait. Sur ce monde de fou.
Sur un monde, effectivement, d'aberration, qu'elle soit politique ou sociale, avec des inégalités sociales, avec de plus en plus de féminicides, avec un hôpital public qui est géré comme une entreprise, la liste est tellement longue, si vous voulez, qu'en fait, quand je commençais à chercher un sujet pour mon prochain roman, le sujet s'est imposé à moi. Je me suis dit, en fait, on vit dans une société qui s'entre-dévore en permanence, qui est sclérosée de clivages politiques, idéologiques, religieux. Voilà, tout ça, bien sûr, est envenimé par les réseaux sociaux dont il est très, qui sont très présents dans le roman. Et je me suis dit, puisqu'on s'entre-dévore, autant aller au bout de cette thématique et voilà quoi. Donc effectivement, il y a une lecture très politique du roman, mais j'avais à cœur déjà d'écrire un vrai roman de genre, parce que c'est une culture que je défends depuis longtemps, et je crois énormément au mélange des genres. Quand il y a 20 ans, quand j'ai débuté avec mes premiers romans, il y avait souvent cette critique de certains éditeurs qui me disait, mais pourquoi vous ne choisissez pas tel ou tel genre? Vous êtes à la fois dans le social, dans le fantastique. Mais en fait, moi, j'ai grandi avec ces deux cultures-là. J'ai grandi avec les films de Sauté, les films de McTiernan, avec les films de Louis Malle et les films de Carpenter. Je lisais Camus et je lisais King à l'époque aussi. Et voilà. Et j'ai toujours cru au mélange des genres. Et je trouve que ce mélange-là, quand on arrive à le choper, c'est là qu'on peut faire la critique politique la plus affûtée.
Élise.
Est-ce que c'est un roman Covid? Parce qu'il y a eu des bébés Covid. On sait qu'après le Covid, il y a eu des bébés Covid. Est-ce que c'est un roman qui est né? Parce qu'on y pense évidemment avec cette histoire de pandémie et de fléau total qui s'abat. C'est pas le Covid, c'est pas... Voilà. Mais est-ce que c'est un roman qui est né pendant cette période? Ou est-ce que c'est ensuite, quand vous avez digéré un peu ces confinements et ces inquiétudes qu'on a pu avoir, que vous avez eu l'idée de ce livre?
Alors non, pas du tout. J'ai été bien évidemment marqué par cette période. C'est un marqueur historique. Voilà. Moi, il faut savoir que j'écris toujours depuis, parce que là, c'est mon 13e ou 14e roman. Je crois que chacun de mes livres, en fait, parle de près ou de loin d'une époque charnière. Voilà, d'une cassure historique. Donc, bien évidemment, j'ai été marqué par cette épidémie, mais j'ai surtout été marqué par le traitement médiatique et politique du Covid. Avec, je veux dire, encore une fois, toutes les choses un peu absurdes qu'on a pu observer à l'époque et que j'ai justement essayé de retranscrire dans le roman. Mais non, je voulais pas spécialement parler du Covid. Je voulais surtout m'attaquer au concept du vivre ensemble, auquel je crois, parce que voilà, j'habite une ville de banlieue dans laquelle le vivre ensemble est possible. Mais on va dire que le vivre ensemble a ses limites, comme la plupart des choses en ce monde. L'amour peut avoir ses limites aussi, la vie a ses limites. Et voilà, il se trouve que la seule chose qui n'a pas de limite, c'est la connerie. Et je voulais ça aussi en parler dans le roman.
Antoine ?
Malgré tout, le fait qu'on ait tous collectivement vécu le confinement fait qu'on ne lit pas votre livre de la même manière. C'est-à-dire que pour l'instant, les fictions d'apocalypse zombie, à moins qu'on soit un survivaliste américain forcené, étaient du domaine de l'imaginaire, de s'imaginer reclus dans une maison entourée d'un fléau extrêmement dangereux. Là, pour le coup, on se projette très facilement dans votre histoire et malgré tout, vous en jouez, il me semble, y compris dans ce qu'il y a de plus quotidien, la question de la gestion des pâtes, il n'y a plus de pâté pour le chat, est-ce que je vais sortir? J'ai besoin d'une autorisation pour sortir, il faut que je fasse un test pour sortir. Tout ça, c'est des éléments qui, malgré tout, viennent de cette expérience vécue.
Ça, c'était fondamental. C'était vraiment fondamental. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé de m'attaquer à ce type de récit, cette épidémie, pour moi, c'était très important qu'il y ait ce ping-pong entre l'international et l'intime. Voilà, qu'on soit vraiment au plus près des personnages de cet immeuble, qui habite un immeuble de 3 étages avec 2 foyers par palier, avec des tendances politiques différentes, des origines différentes. Je voulais vraiment que cet immeuble de 3 étages symbolise quelque part la France d'aujourd'hui. Et qui est ce côté un peu ce côté un peu bon enfant justement d'une vie dans un petit immeuble, une ambiance de village dans un petit immeuble où chacun a ses petits défauts, ses petits travers, et je trouvais ça intéressant de tester justement les limites du vivre ensemble, encore une fois, qui est un concept auquel je crois. Mais je me disais aujourd'hui, par exemple, on est quand même dans une société qui se précarise de plus en plus, qui se durcit de plus en plus. qui devient de plus en plus étouffante, asphyxiante à bien des égards sur le plan politique, idéologique ou autre. Et en fait, plus ça pue, plus on nous parle de bien-être et de vivre ensemble. C'est un truc, moi, je trouve, qui me fait pas mal, qui m'amuse pas mal. Et c'est notamment pour ça que j'aime autant le roman noir et la culture du noir en règle générale. C'est que c'est, à mon sens, hein, je dis pas que j'ai raison, mais à mon sens, c'est la seule littérature qui permet d'aborder les sujets sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire, on peut parler de ce qui est de plus grave, de ce qu'il y a de plus grave en ce monde avec un humour bien évidemment très très noir, mais justement pour faire ressortir tout ce qui relève de l'absurde un petit peu et des petits comportements humains, parce que de toute façon, épidémie, guerre ou autre, en fait, on parle toujours de l'humain, quelle que soit l'histoire, que ce soit une enquête policière, d'espionnage, des zombies ou autre. Le plus important, ce qui fait la grande différence, ce sont les petits détails du quotidien, les pattes dont vous parliez. Effectivement, c'était ça, moi, le plus important, parce qu'il fallait que je me sente proche de mes personnages, et donc il fallait que les personnages se sentent proches des personnages aussi.
Des dizaines, des centaines, peut-être des milliers. Impossible de savoir tant les chiffres diffèrent d'une chaîne à l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'ils sillonnent le pays, des villes aux campagnes. D'innombrables camions bennent d'où descendent des individus avec des masques à gaz en combinaison intégrale. Certains sont armés de mitraillettes et surveillent les environs pendant que les autres transportent les corps, ramassent les membres éparpillés pour les balancer à l'arrière des camions. Direction l'incinérateur de déchets d'Ivry-sur-Seine. À travers les fenêtres, les confinés observent, entre répulsion et fascination, scènes irréelles à jamais ancrées dans leur esprit. On pense à Soleil Vert, à The Walking Dead. On pense aussi à se reprendre une bière puisque l'eau minérale est rationnée, picolée pour gommer la soif, noyer l'angoisse, et frémir en voyant certains ramasseurs s'attaquer férocement à leurs équipiers, lacérés, étripés, dévorés jusqu'à l'os. Michael mentionne donc un sang impur, donc votre roman chez Bellefond Noir, c'est le balancement permanent entre des visions, je dirais, télévisuelles ou alors panoramiques, malgré que vous ayez restreint un peu le champ, avec des scènes de rue, des scènes qui sont assez vastes comme ça, et puis ce dont parlait Antoine, c'est-à-dire le quotidien du confiné, confronté à des problèmes de rationnement, à des problèmes de produits périmés, à des problèmes de cohabitation, à la découverte peu à peu d'éléments, je dirais, peu reluisants de la vie familiale. Donc, techniquement, c'est un roman qui doit en permanence jouer sur cette balance entre le drame planétaire, puisque là, c'est quand même planétaire, et puis le drame individuel.
Je pense que cet équilibre dont vous parlez, ce ping-pong permanent, ouais, entre deux visions et deux sensations, c'est quelque chose qui peut caractériser tout ce que j'écris depuis une bonne dizaine d'années. Je suis lecteur avant tout, donc je peux vite m'ennuyer dans la vie. Donc en fait, quand j'ouvre un bouquin, il faut qu'il se passe quelque chose. Quand je regarde un film, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça me raconte quelque chose. Il faut qu'il y ait soit une convergence de points de vue, soit une divergence de points de vue, mais en tout cas, il faut que ce soit vivant, organique, parce que sinon, moi, je suis un peu avide, quoi. Au quotidien, c'est valable pour la musique aussi, le cinéma, bien évidemment. Et c'est vrai qu'effectivement, dans ce roman, encore une fois, je me suis dit, alors, vu le nombre de bouquins et de films qui ont été faits sur des, ouais, des épidémies de zombies ou autres, quelle serait ma plus-value si je m'engouffrais dans cet univers-là. Et je me suis dit, peut-être que ce sera ce point de vue du quotidien, Justement, à travers des personnages. Alors, ça va du couple de retraités très très âgés avec un vieil homme qui s'appelle René et qui cherche à préserver son épouse, hein, qui souffre d'Alzheimer, et voilà, il cherche à faire en sorte qu'elle ne soit pas du tout informée de ce qu'il se passe. Voilà, du couple aussi qui habite au dernier étage, des gens qui sont un petit peu fortunés, et qui se disent ouverts, mais qui sont ouverts jusqu'à une certaine limite aussi, en fonction de ce qui va se passer après dans le récit. Voilà, il y a la famille de musulmans du rez-de-chaussée aussi. Voilà, et c'est vrai que j'avais à cœur dans ce roman, si vous voulez, de parler des gens dont on parle rarement dans les livres, enfin je trouve en tout cas, enfin on en parle mais on parle peut-être pas assez, ou en tout cas la plupart des gens qu'on peut croiser au quotidien, voilà, quand on va faire les courses ou dans notre immeuble. Ça, c'était vraiment pour moi très important, et donc ça induisait ce ping-pong entre tout le temps ce rendu médiatique de ce qui se passe au niveau international, et ensuite la digestion de ces infos par les individus. Voilà, j'ai beaucoup fonctionné par entonnoir. À chaque fois, c'était qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et quelles sont les retombées de ces événements, et surtout quelle est la portée donnée à ce qui se passe à l'extérieur, et quelle est la torsion de l'information. Voilà, moi je fonctionne beaucoup par torsion, c'est-à-dire que je prends un genre et je le tords et je vois ce que je peux en faire. Et là, c'était pareil, effectivement. Voilà.
Élise.
Ce qui est intéressant aussi, c'est l'inattendu du roman. C'est-à-dire que, au début, quand arrivent les premières scènes fortes, même plus que fortes, terribles, de dévoration, on se dit, bon, bah, ça va devenir la route où ils vont se mettre à se manger entre eux, même quand ils seront pas malades. En fait, ils vont se retrouver avec leur fils, parce que c'est un couple, le couple central, un petit garçon. Donc, on se dit, ils vont tout faire pour le sauver, quitte à partir sur les routes etc. Bon, finalement, ça n'arrive pas. Quelque chose s'organise. L'État tient, on sait pas trop comment, mais il y a quand même des distributions. Il y a quand même quelque chose qui arrive à perdurer. Et puis par ailleurs, on se dit, bah là, on va avoir des grands héros. On va avoir, on a souvent des gestes héroïques. Je vais partir chercher le traitement de la gamine à la pharmacie, etc. Et puis en fait, on se rend compte que soit les gens sont pas si reluisants, soit sont carrément potentiellement des gros salauds. Et là, vous nous faites aussi quand même pas mal de surprises. Donc vous désamorcer un peu le problème des clichés qui pourraient se poser dans ce genre de roman avec ce genre de personnage. Comment vous avez travaillé ça, justement ?
Michael Mention.
J'essaye. J'essaye, tout simplement. Ben, disons, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'écrire sur les clichés, parce que le cliché, en fait, il est toujours inspiré d'une certaine réalité, malgré tout. Mais c'est vrai que j'essaye depuis plusieurs années, si vous voulez, encore une fois, de traiter certains sujets ou certains personnages par le côté, si vous voulez, plutôt que les aborder de front. J'essaie toujours de voir ce qui se cache un peu derrière. Je me faisais la réflexion récemment, si on prend l'exemple par exemple du cliché des personnages féminins, généralement dans les livres ou dans les films, les femmes sont soit victimes, soit débattantes, par exemple, voilà, ou les hommes sont soit des héros ou soit des lâches. Voilà. Bon, mais moi je pense que la vie est beaucoup plus complexe que ça, et que à moins de tomber sur vraiment un archétype qu'on pourrait croiser, et bon, il se trouve que ça existe, hein, des fois on connaît tous un archétype, au moins au boulot ou ailleurs ou dans notre immeuble, je pense que la vie est beaucoup plus complexe que ça, et que c'est le contexte qui façonne les individus. Et ça, je crois que c'est l'obsession de tout ce que j'écris. Ça concerne ma trilogie en Angleterre notamment, ou ça concerne aussi Power, mon livre sur les Black Panther. C'est que pour moi, c'est le contexte et c'est l'époque qui façonne l'individu. Je suis convaincu par ça. Et donc là, j'avais à cœur de faire à la fois un livre qui est orienté par ces personnages, parce que pour moi, en fait, le récit, c'est avant tout le personnage, c'est pas l'intrigue, c'est le personnage qui fait l'intrigue. Après, ça n'engage que moi. Mais voilà, je suis convaincu que c'est ça en tout cas, voilà, parce que de toute façon, il se trouve que le roman noir, c'est une littérature de personnages avant tout, hein. C'est pas une littérature d'intrigues qui sont abracadabantesques, comme disait un certain président ou autre. Ouais. Mais voilà, c'est d'abord une littérature de personnages. Et je trouve que c'est vraiment, comment dire ça? C'est vraiment le sel, on va dire, de cet univers-là et de cette culture-là. Pour moi, c'était vraiment essentiel.
Antoine Guillaume.
C'est une littérature, pardon, certes, de personnages, mais aussi de style. Et il y en a chez vous du style qui vient beaucoup de la musique. Je ne sais pas ce que vous écoutez quand vous écrivez. En tout cas, vos personnages écoutent de la musique et citent directement des morceaux. Mais c'est vrai qu'il y a une rythmique chez vous, une construction assez rhapsodique. C'est-à-dire que c'est jamais systématique. Il y a des chapitres très courts, il y en a des très longs, il y a des phrases très longues.
Que j'ai lu tout à l'heure, c'était le chapitre 14.
Voilà, et on a entendu la musicalité grâce à votre excellente interprétation, François. Mais alors, c'est quelque chose qui passe beaucoup par les petits points, par les points de suspension. Alors, je ne sais pas si c'est la lecture de Stephen King à 12 ans qui vous a durablement marqué, mais lui utilise aussi beaucoup ce système-là qui, en fait, consiste à interrompre une phrase ou une séquence par un insert. Alors, chez vous, par moment, c'est un insert des informations à la télévision ou de ce qui se passe à un autre moment. Mais dans ces petit point, il y a à la fois des effets de latence, on se demande ce qui va se passer, et aussi des effets de surprise, où tout d'un coup, paf, ça arrive, quelque chose d'atroce. Il faut quand même prévenir les lecteurs que tout le monde ne sortira pas indemne de cet immeuble, on dira pas qui. D'ailleurs, je suis curieux aussi de savoir à quel point vous saviez déjà au départ qui allait s'en sortir ou pas, ou s'il y a une logique aussi du récit qui fait que tel personnage, finalement, ch'tac.
Plusieurs choses. Plusieurs choses, parce que, alors effectivement, alors King, je ne me souvenais plus qu'il avait ce truc avec les points de suspension, mais je me souviens que dans Christine, qui est le premier roman que j'ai lu, parce que le premier c'était le recueil de nouvelles Danse Macabre, qui a vraiment, je pense, changé ma vie à l'époque. Voilà. Après, il y a eu Thiéphaine, il y a eu Philippe Muret, il y a eu Céline Camus, mais c'est vrai que Danse Macabre de Stephen King, ça a marqué. Et dans Christine, il y a ça, effectivement. Voilà, ce roman sur l'amitié entre deux lycéens avec des inserts musicaux. Après, franchement, pour vous dire la vérité, en fait, la musique dont il est question dans tous mes romans, qui remontent même au tout premier, même ceux qui étaient tout pourris au tout début, en 2000-2001, c'est la musique que j'écoute au quotidien. Voilà. J'ai autant grandi avec King Crimson et Magma que Paul Naref et Gainsbourg. J'écoute de la pop, j'écoute aussi du métal comme Sepultura. Voilà, j'écoute aussi du Cypress Hill. Je me mets un petit peu au classique par moment, quoique je suis loin d'être un grand spécialiste. Je suis assez curieux, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis assez avide au quotidien. J'adore découvrir des choses, des films, un morceau de musique. Si je suis dans un bar et que j'entends une intro, un riff qui me plaît, il me le faut absolument. Voilà, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel sur ça. Donc voilà, après la musique, pour moi c'est une énergie en fait. Ça a toujours été, je sais pas comment vous dire. En fait, je pense... Bon, c'est un peu un cliché. Si on parlait des clichés tout à l'heure, c'est un peu un cliché ce que je veux dire, mais je pense qu'on écrit ce qu'on est. Voilà, on mange ce qu'on est apparemment, de ce que j'ai appris récemment, mais on écrit ce qu'on est aussi. Voilà, moi j'ai l'esprit qui part tout le temps à 100 à l'heure. Voilà, je m'intéresse à tout le temps, et si je travaille le lendemain et que je tombe sur un documentaire passionnant qui passe à 3h du matin, et ben je vais le regarder. Tant pis, je serai fatigué. Je suis comme ça. Et en musique, c'est pareil. Et c'est vrai que la musique, c'est une énergie à part entière, et j'ai toujours à cœur, enfin, je dis pas comment dire ça, j'ai à cœur de la mélanger à mon écriture, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait elle s'impose d'elle-même. Quand j'ai mon personnage qui, Matt, justement pour le citer, et qui vient d'apprendre comme 60 millions de Français que c'était potentiellement la fin du monde, et que chacun digère à sa manière cette information, il va dans son bureau, il fume sa clope en écoutant un morceau de musique, et bien évidemment, il se dit, si ça se peut, c'est peut-être le dernier morceau de musique que j'écoute de ma vie, c'est peut-être aussi ma dernière clope, c'est peut-être aussi, c'est peut-être la dernière nuit, avec le dernier lever de soleil, si jamais j'ai la chance de le voir. Donc, on revient tout à l'heure sur ce qu'on disait, sur cet attachement aux détails. Ce qui est fantastique avec la musique, c'est-à-dire que quand on dit que la musique elle adoucit les mœurs, c'est vrai. C'est-à-dire que même la personne qui ne comprend rien à la musique, qui n'est pas sensible à la musique, est capable de battre du pied, parce que la musique c'est quelque chose de très sensoriel. Et ça a quelque chose de très fédérateur, moi, qui m'a toujours beaucoup plu. Et puis on va pas se mentir, si on écrit c'est pour partager. Donc on partage ses obsessions, son humour et aussi ses passions, et donc sa musique.
Élise Lépine.
Ça m'a beaucoup fait penser à un film que vous m'avez dit ne pas avoir vu. Ce qui m'a étonné, c'est The Battery de Jeremy Gardner, qui était un film américain indépendant de zombies avec deux fan de musique et c'était un film très planant et justement c'est ce que j'adore moi dans la fiction de zombies, j'aime beaucoup ça. Mais j'aime beaucoup aussi les moments de respiration, c'est-à-dire ces moments où on est à l'abri pour une heure ou une nuit ou une minute et où on prend le temps d'introspection ou de souffler et de se dire bah, j'ai
les moments où tout se passe justement.
Voilà, tout se passe, tout se joue et puis mais en même temps on aime aussi parce que il y a les moments où on a des zombies à ses trousses et où on risque de se faire arracher la moitié de la tête à coups de dents. Comment est-ce que vous avez géré? Est-ce que c'était intuitif l'alternance, parce que c'est bien fait dans le livre, l'alternance entre les moments où ça dépote, où on a des courses-poursuites à travers les rues, où des zombies, des hordes de zombies qui arrivent dans les appartements, et les moments où ben, on est sur le balcon, fume sa clope, et on regarde le monde partir à volo.
Quelle mention?
Alors ça...
Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce qu'il y avait une frise sur le mur?
Oui, il y avait un plan très vague, mais c'était plus un plan... on va dire c'était plus un cahier des charges, on va dire des sujets que je voulais aborder, voilà, ou de certaines musiques que je voulais caser. Par exemple, No Quarter de Led Zeppelin que j'ai totalement redécouvert il y a 2 ans. Je me suis dit il faut absolument que je mette ce morceau dans un bouquin. Et en le réécoutant la dernière fois, je me suis dit bah là il va coller parfaitement à 1500 impurs. Après non, c'est encore une fois j'écris le livre que j'ai toujours voulu lire ou le film que j'aimerais voir. Enfin c'est encore une fois. C'est voilà, j'invente rien, mais cette alternance, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais ado, quand j'ai vu des films comme Délivrance ou Le Parrain ou L'Exorciste, French Connection, tous ces films du nouvel Hollywood, ou par exemple, quand il s'appelle ce film de Bourman avec Lee Marvin, le point de
non-retour.
Le point de non-retour. Merci. Fantastique. J'ai tellement appris avec ces films-là. Et encore, je parle que du cinéma américain, mais je pourrais citer Melville, je pourrais citer Clouseau. Voilà, j'ai revu Le Salaire de la peur l'autre jour. C'est au bout d'un moment, c'est tellement maîtrisé, c'est tellement intelligent. Chaque seconde a son importance. Chaque dialogue est pertinent. Et puis, enfin, je veux dire, encore une fois, il se passe tout le temps quelque chose dans ces films-là, dans ces bouquins-là. J'ai pas parlé des bouquins, mais voilà, je pourrais citer Elroy aussi. Voilà. Il y en a plein d'autres. Là, je peux dire que La Chute de David Peace, évidemment. Mais David Peace, j'avais mis un point d'honneur à le lire après avoir rédigé ma trilogie parce que je voulais pas être influencé. Mais par exemple, La Chute de Camus, que j'avais lu quand j'étais en première, m'a profondément marqué. Et je le relis tous les 2 ans. Et c'est une facette de Camus, d'ailleurs, dont on parle très peu, hein, cette facette un peu sarcastique et cet humanisme un peu différent, quoi, un peu satirique. Mais c'est vrai qu'en fait, on apprend tellement quand on voit ces films-là, quand on lit ces bouquins-là, que quelque part, cet équilibre dont vous parliez, enfin, je veux dire, pour moi, je vais pas dire que c'est ma méthode, mais c'est comme ça que je pense maintenant mes histoires. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre qui débuterait par une grande scène d'émeute. Un truc, je me dirais, mais moi, j'adorais lire un bouquin qui commence par 4 ou 5 pages, grand format d'émeute, avec des gens qui courent, qui se bousculent, qui se piétinent, et puis, enfin, je veux dire, vraiment, il y a un gros mélange de bruit, d'émotions, de sueur, de sang, de cacophonie, une espèce d'orgie d'émotions. Et voilà, bon, ça y est, je l'ai enfin fait, je me suis régalé, j'ai peaufiné ce chapitre, parce que j'ai déjà tout dit, et quelque part, j'annonce la couleur, dans ce chapitre-là, hein. C'était Hitchcock, qui disait que souvent dans la séquence d'ouverture, il fallait qu'elle raconte tout le film. Bon, mais là, j'ai le sentiment d'avoir fait ça dans ce chapitre-là. Mais bien évidemment qu'après un moment très, très intense comme celui-ci, il fallait qu'il y ait un petit moment de respiration. Mais de toute façon, c'est un jeu avec le lecteur. C'est-à-dire, on lui met la pression, après on appuie sur le frein, on relâche un peu la pédale, on prépare le lecteur, hop, et voilà. Et après, on en remet une couche. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'encore une fois, en tant que lecteur, moi, j'aime qu'on bouscule aussi. J'aime qu'on masticote un peu, qu'on me fasse miroiter des choses autour d'un personnage qu'on présente comme le héros, finalement non. Ça, je me suis évidemment beaucoup amusé à faire ça. Voilà.
Lâchez-le, lâchez l'enfant. La rue, le quartier, le temps se figent, suspendus au crochet du néant. La vie retient son souffle et peine à ajuster sa ligne de mire, entravée par la tête de Théo, hurlant. Matt le rapproche de ses yeux, transpirant, le fixe avec intensité, haletant, déploie sa gueule, tremblant, luttant contre le mal intérieur. Il libère son fils et se jette en rugissant au devant des canons. Théo, sa tête heurte le sol où il s'évanouit. Matt, la première balle lui arrache une joue. Les autres font le reste. Le sang crache, pourpre et bleuté par la grâce du soleil. Matt se tord, se plie, se tord comme un pantin fou sous la pression des tirs. Ses cris se mêlent à ceux de Clem qui surgit, protège son fils de ses bras. Une dernière balle, un dernier écho, et Matt bascule lourdement sur le dos, le torse fumant, la tête déchiquetée. Couché au sol, Joël est sous le choc tandis que Clem enlace son fils, bouleversé, sa cheville embrasée de douleur, tournant le dos au destin.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Et Antoine Guillot.
Bon, c'est très cruel ce que vous venez de faire, François Angelier, parce que vous venez de tuer un personnage du livre. Vous
avez fait que
lire ce qu'il avait écrit. En tout cas, voilà, on a un personnage qui est mort. Et je réitère ma question, un des tiroirs de ma question à tiroir de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on décide et à quel moment de faire mourir un personnage? Et est-ce que il y a des moments où des personnages se sont sauvés, où vous aviez prévu de l'ossir violemment et finalement il a résisté et il a réussi à vivre jusqu'au bout.
Mais quelle mention ?
Alors ça, c'est un vaste débat. Déjà, c'est un débat en interne. Voilà, moi et mes démons, on en a longuement discuté. Après, ça s'est fait avec ma compagne, avec deux, trois collègues de boulot. Non, plus sérieusement, c'est... disons que chaque personnage incarne toujours quelque chose. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans le réel... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'essaye toujours de donner une vision, en fait, disons la portée la plus réaliste à mon personnage, à mes personnages, et en même temps, chaque personnage incarne quelque chose. Il incarne peut-être ou un courant politique particulier, une culture particulière, une origine particulière, et donc bien évidemment que il fallait pas dézinguer à tout va sans se demander quelle portée aurait tel ou tel décès. Donc certaines choses se sont imposées d'elles-mêmes. Voilà, parce qu'encore une fois, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de social et de politique, mais c'est aussi avant tout un roman de genre. Donc c'est vrai que j'avais à cœur de me faire plaisir sur ce terrain-là. Voilà, parce qu'on me dit souvent que mes livres débordent d'humanité, et je revendique ça dans une époque qui est assez souvent assez démonstrative et complaisante dans le sang. Et le côté un peu dégueulasse aussi de certaines choses et tout ça, dans une certaine grossièreté du trash outrancier. Mais là, je me suis dit, pour une fois, je peux peut-être me faire un petit peu plaisir à condition que cette violence raconte quelque chose. Donc ça, c'est un gros travail de réflexion sur les personnages. Alors le problème, justement, par rapport à votre question, c'est que je peux répondre et je peux pas trop en dire. Voilà. Ah, parce, voilà. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le roman et je peux pas citer de prénom.
Il y a des renversements foudroyants.
Mais ça a été un équilibre qui a été mûrement réfléchi, dont je suis pleinement satisfait. Voilà, si j'en crois les retours des lecteurs. Et voilà. Mais c'est sûr qu'il y avait un ordre spécifique, un petit peu comme dans les slashers, hein, d'ailleurs. Dans les bons slashers, on sait très bien que la première personne qui meurt, elle annonce la couleur. Et voilà. Et puis, de toute façon, ça fonctionne par miroir aussi. C'est ça qui est toujours intéressant avec les personnages, c'est ce qui se passe renvoie quelque chose au suivant.
Thank you.
Et les enfants dans tout ça, parce qu'il on a beaucoup parlé des adultes, mais il y a aussi des enfants qui sont pas épargnés dans plein de fléaux d'ailleurs. Il y a pas seulement la maladie qui peut s'abattre sur eux dans ce livre. Est-ce que c'est pas trop difficile d'aller sur ce terrain-là?
Non, parce que c'est un roman que j'ai écrit. Donc déjà, il y a toujours une distance. J'évoquais l'humour tout à l'heure. Ce qui me plaît notamment dans le roman noir, c'est l'humour aussi qu'on peut y mettre. Voilà. Et l'humour, de toute façon, dans la vie au quotidien, c'est de la distance un peu qu'on peut mettre par rapport à certaines situations. Ceci dit, par rapport au personnage des enfants, pour moi, c'était vraiment essentiel. Bon, déjà, il se trouve que je suis papa, donc j'ai découvert il y a 9 ans et demi maintenant le bonheur d'être père, et en même temps une certaine peur aussi, justement, de perdre ce bonheur-là, cet émerveillement permanent. Et je pense que tout parent qui aime ses enfants, je le précise, vit justement sur cette dynamique, c'est-à-dire à la fois un émerveillement et en même temps une angoisse potentielle liée à l'incertitude de l'avenir. Donc ça, c'était pour moi essentiel d'évoquer ça. Je trouve aussi que le point de vue des enfants m'intéressait par rapport à cette histoire, parce que comment on vit une époque qui est quand même très très grave, qui est très sérieuse. Alors bon, des fois qui se prend au sérieux et des fois qui malheureusement est très sérieuse avec des guerres, des épidémies, des crimes, de la corruption, tout ce que vous voulez. C'est vrai que quelque part le point de vue des enfants, la candeur des enfants, le côté premier degré des enfants, moi il me fascine. Voilà, il se trouve que je travaille en médiathèque, je suis amené à faire des lectures à des classes ou en crèche, et je suis tout le temps stupéfait par la pertinence du point de vue des gamins, des fois, qui sont capables d'un humour dévastateur sans s'en rendre compte, et surtout qui ramènent toujours je sais pas comment dire ça. Disons la situation la plus dramatique, il la ramène toujours à quelque chose de très, ouais, je vous dis, de très innocent, de très candide. Et ça, c'était pour moi essentiel dans un roman qui est quand même assez anxiogène, je pense, assez tendu. Enfin, tout le monde me dit, voilà, moi je me rends plus compte là, parce que je l'ai trop travaillé. Mais c'est que les lecteurs me disent que le livre est extrêmement tendu, très anxiogène, et voilà, donc je me dis que quelque part, le point de vue des enfants dedans, il était plus qu'essentiel, au détour d'une petite réplique, et puis surtout, voilà, c'est vrai qu'à travers les enfants, ce sont leurs parents aussi qui comptent, et ce que ça soulève comme enjeu aussi, notamment au sein du couple.
Oui, mais dans un roman comme celui-ci, si mes souvenirs sont bons, dans La nuit des morts vivants, il y a une petite fille qui mange sa mère. Donc l'enfant est susceptible de tous les comportements, dans une fiction. Donc là, vous avez à choisir entre, je dirais, l'enfant qui peut éventuellement être contaminé, ou l'enfant qu'on protège, ou l'enfant qui est un oasis un peu de calme et de, à contrario, de paix. Donc là, c'est vrai ce que disait Élie, il y a vraiment un problème posé par l'enfant, quoi, quand on veut le mettre en scène dans un roman pareil.
Oui, c'est aussi l'enfant qu'on manipule lorsqu'on cherche à le préserver aussi. Ça, c'est très présent dans le roman. Dans quelle mesure on devrait ou on doit annoncer la vérité à son enfant? Dans quelle mesure on peut le préserver? Dans quelle mesure on peut aussi lui faire faire des choses qu'on cautionnerait pas vraiment? Ça, c'est, mais de toute façon, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de thématique, encore une fois, que ce soit par exemple La Voix secrète, qui était un polar historique qui se passe au 19e, avec le basculement vers ce qu'on appelait pas encore le libéralisme, ou par exemple les années 60-70 avec les Black Panthers. Ce qui m'intéresse toujours, ce sont les périodes charnières. Et dans les périodes charnières, les premières victimes sont les enfants. De toute façon, si on part du principe que les enfants sont les plus vulnérables par rapport à cette épidémie, et l'épidémie du roman, moi je pourrais vous répondre que les enfants sont déjà des cibles dans notre société, des cibles économiques tout simplement au quotidien, on le voit. Les enfants sont l'épicentre d'enjeux politiques. Alors ça va de l'éducation ou à d'autres sujets. Donc de toute façon, la thématique de l'enfant, elle est fascinante, et je trouve que en fonction de l'intrigue, elle peut prendre une ampleur particulière.
Élise ?
Ils sont l'épicentre aussi du couple, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, vous mettez un ingrédient assez inattendu dans ces circonstances, c'est du drama conjugal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même un déchirement qui évoque tout à fait un été pourri dont on se souviendra toute sa vie, d'une pierre noire, l'été où bon, on s'est vraiment très très engueulé, qui correspond
et
pas
en plus, à une épidémie confiné.
Il y a un été confiné. Ça aussi, ça peut évoquer des mauvais souvenirs d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous a motivé dans ça et qu'est-ce qui vous a guidé aussi dans le mélange de fin du monde et puis fin de couple?
Mais parce que c'est la vie qui est faite de ça, en fait. Bon, il se trouve que moi, j'ai imaginé une épidémie où tout le monde s'entre-dévore, mais il se trouve que la vie continue. Une fois que les gens sont confinés, en fait, la vie continue. Donc, si on veut manger des pâtes, il faut qu'il y ait des pâtes. Et si on a une maîtresse ou un amant, ben on peut pas contacter cette personne. Donc, on en souffre secrètement. Et si, enfin, je veux dire, moi, c'est ce qui était vraiment très important pour moi, c'était d'évoquer tous les absents dans le roman. Voilà, il se trouve qu'il y a des personnages dans cet immeuble, voilà, tout à l'heure je les ai évoqués, mais il y a plein de gens dont on parle mais qu'on ne voit pas dans le roman. Voilà, il y a la maîtresse qui est loin. Il y a la mère du personnage principal qui vit dans le sud et on ne sait pas comment elle vit cette épidémie. Alors bon, tout le monde fait des visios, tout le monde se téléphone, mais ça pour moi, c'était vraiment essentiel et bien évidemment de faire en sorte que la vie continue, c'est-à-dire que une fois que le président a parlé, que l'allocution a eu lieu, que les médias relaient les infos ou ce qu'il croit être des infos, parce que ça aussi c'est très présent dans le roman, avec justement un traitement médiatique qui ce qu'on a un petit peu vécu à l'époque du Covid, je dis un petit peu parce que je suis gentil, mais c'est-à-dire où en fait on n'avait pas vraiment de choses à se mettre sous la dent, mais il fallait bien que les journalistes en parlent parce qu'ils étaient tout aussi déroutés que nous. Donc en fait, on a pu assister en direct à des machines qui tournaient à vide pour recycler des mêmes choses et nous dire que tel jour il y avait tant de morts et tout ça. Et c'était cette chose dont je voulais parler justement dans le roman. Mais bien évidemment que parallèlement à cette épidémie, ce traitement médiatique et ces gens qui agressent et qui dévorent à l'extérieur, ben, la vie continue en intérieur. Donc il faut manger, il faut se doucher. Mais alors comment on fait pour se doucher si on soupçonne l'eau d'être contaminée? Et puis si on héberge des gens chez nous, ben, est-ce que ça va pas les déranger qu'on écoute telle radio parce qu'ils sont peut-être pas de la même tendance politique? Et si quelqu'un fait la prière chez nous, qu'on l'héberge, dans quelle mesure ça peut nous déranger ou pas? Moi, c'était ça qui m'intéressait vraiment, c'était de continuer à parler du quotidien dans une histoire qui est totalement extraordinaire.
Dernière question, Michael Mention. Aujourd'hui, on s'est beaucoup consacré, je dirais, à l'aspect le plus sombre du post-apocalypse. Aujourd'hui, la tendance serait plutôt à envisager le moment où l'herbe reverdit, où tout repousse, où les choses... Est-ce que vous participez de cet optimisme narratif qui considère qu'après tout, bon, maintenant, il faut passer à des fictions plus bienveillantes vers... concernant l'avenir?
Non, non, non. Moi, les modes littéraires où je les laisse à d'autres. Non, non. Non, je fonctionne à l'envi. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis un obsessionnel. Cette idée, ce roman-là, j'ai eu l'idée, je crois, il y a 8 ans, j'en parlais dans une interview, je sais plus où, comme ce western que j'écris il y a quelques années, Dehors les chiens. J'avais cette envie d'écrire un western il y a pas mal d'années, je l'ai fait. Après, non, s'il faut faire du livre dans lequel l'herbe repousse, ben, je veux bien le faire, mais je ferai plus de roman noir. Le roman noir, c'est pas l'herbe qui repousse.
Vous n'êtes pas l'homme des romans verts, vous êtes l'homme des romans noirs. Ben, restez-le, c'est une très très bonne idée, je crois que c'est vraiment votre vocation, Michael Mention. Je rappelle le titre de ce roman, 1500 impurs, c'est aux éditions Belfond dans la collection Noire. Chronique maintenant dans Mauvais Genre sur France Culture. On commence avec vous, Élise Lépine.
Oui, et moi j'ai envie de continuer de vous parler de zombies parce que je m'en lasse jamais. Et le titre de ce livre n'est pas très impressionnant, du moins pas aussi impressionnant qu'un vrai zombie, puisque c'est La Souris d'Ivan Filipov qui est paru il y a quelques semaines aux éditions Blue Man en France. Ivan Filipov, c'est un auteur russe qui vit en exil en Allemagne et qu'on découvre chez nous avec ce livre. En revanche, il est très connu en Russie, notamment pour ses activités de youtubeur, parce qu'il est spécialisé dans la propagande militaire russe. Et Sa Souris est interdite de vente en Russie pour plein de raisons, et notamment parce que Poutine y meurt assez tôt dans le livre en se faisant manger par des zombies. Et connaissant le personnage, ça l'a un peu vexé. Donc voilà, et les ventes du livre ont explosé de manière extraordinaire après la censure. Donc voilà, les gens ont quand même envie de voir ça. Et donc c'est une histoire de mort-vivant dont la forme est assez classique. Tout commence par une souris qui s'échappe d'un laboratoire dans lequel le pouvoir russe essaye depuis longtemps de trouver le secret de la vie éternelle. Mais c'est surtout le secret du chaos général qu'ils vont percer, puisque cette souris contaminée au virus zombie va mordre une dame en plein métro moscovite. Et donc la rage foudroyante se répand, les gens s'entre-dévorent et on va suivre le destin d'une poignée de survivants, parmi lesquels il y a deux frères, donc des petits garçons très mignons, un vieux scientifique complètement inoffensif mais qui est emprisonné sur ordre du pouvoir, et sa geôlière qui vont tisser des liens ensemble, une jeune comédienne déguisée elle aussi en souris, un livreur de sushis, etc., etc. Et c'est extrêmement ancré dans la veine zombiesque, horrifique, comme on l'aime, avec des scènes de dévoration incroyables, des courses-poursuites, des attaques violentes, des stratagèmes, etc. Mais moi, ce qui m'a touchée, c'est le message profond du livre. C'est pas juste un roman pop, et comme le livre de Michael Mention, d'ailleurs, c'est un livre très très politique. Il s'en dégage d'abord une grande tristesse, il y a un vrai grand chagrin pour les vies gâchées, que ce soit par le pouvoir, par la guerre, par l'irrespect de l'existence humaine, etc. Il y a une fin assez inattendue que je vais pas dévoiler, mais qui s'ancre un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, François, sur ces fins, peut-être l'herbe qui reverdit. Et on sait à quel point Ivan Filipov a été dévasté par l'invasion de l'Ukraine, et là, il dit un peu son espoir et son rêve de voir les hommes et les femmes réussir à cohabiter d'une façon ou d'une autre. C'est très très réussi dans le genre, dans la forme zombie, mais c'est aussi plein de larmes, c'est plein d'émotions. Enfin, moi, ça m'a plu. Puis il y a Alexei Navalny, cet opposant à Poutine, assassiné en prison l'an dernier, qui fait une apparition et qui porte un message. Donc moi, j'étais complètement acquise au roman, notamment justement pour cet ancrage profond dans la réalité de ces Russes qui ont vu ce qui se passait. Voilà. Et puis, ma deuxième
proposition,
c'est The Fisherman de John Langan. Là, c'est chez J'ai lu.
Très bon roman.
Très bon roman. C'est l'histoire de deux amis qui vivent dans la région des Catskills, dans l'État de New York, où j'étais il y a 2 semaines, qui est incroyable d'ailleurs. Ils sont frappés par le deuil chacun. Ils perdent leur femme pour l'un et sa femme et ses enfants pour le deuxième. Et ils essayent de noyer leur chagrin en allant à la pêche. Et puis, un jour, dans un vieux diner, on leur parle d'une légende du 19e siècle, avant que cette région soit noyée par un lac artificiel qui a vocation à fournir de l'eau potable à la ville de New York. Et là, une jeune femme serait revenue après être morte. Elle serait revenue parmi les vivants, mais sous forme de spectre. Et donc, les eaux de cette région reculée des Catskills pourraient potentiellement bien rendre la vie aux défunts, mais aussi peut-être abriter des démons, des spectres et des léviathans et autres créatures inquiétantes qui vont peut-être réussir à envahir l'humanité par le biais de ces deux pêcheurs un peu trop aventureux. C'est un roman construit en 3 temps et qui va chercher différentes époques, qui est très inventif, que j'ai trouvé absolument bien mené et qui se rapproche de King, de Lovecraft, tout ce qu'on aime, et en même temps qui trouve sa propre voix singulière. Donc vraiment un roman que je recommande depuis sa lecture à tout le monde autour de moi.
Voilà, donc dans The Fisherman
de John Langan, je crois que c'est traduit par Thibaut Eliroff chez J'ai lu.
Et c'est J'ai lu. On passe maintenant aux arts graphiques avec vous, Antoine Guillaume.
Oui, alors je vais vous parler des derniers gestes d'un dieu et des premiers pas d'un autre, si j'en ai le temps. Le dieu, c'est un dieu du dessin, Moebius. Voilà. Moebius a disparu en 2012 et un livre vient nous montrer ce qu'il a fait juste avant. Alors, petit retour en arrière, il y a 50 ans naissait le magazine Metal Hurlant, nous allons en parler très prochainement. Oui. Et dans le numéro 1 de Metal Hurlant, un homme qui avec une cape et un chapeau conique chevauché, un drôle d'oiseau qui était un mélange de ptérodactyle et de dauphin. On apprend après que ça s'appelle un ptérodelphe. Et c'était Arzak. Et Arzak, dans des grands récits muets, allait lancer une sorte d'âge moderne de la bande dessinée. Ça a marqué des générations et des générations d'auteurs et de lecteurs. Et puis Arzak est revenu après avoir disparu pendant de nombreuses années. Il est revenu en 2009. Alors, c'est une histoire assez étrange. Figurez-vous que le dernier projet d'un autre maître dieu, mais du cinéma, qui était Akira Kurosawa, c'était d'adapter Le Masque de la Mort Rouge d'Edgar Allan Poe.
Et puis, après Corman.
Et de le faire en plus en dessin animé. Sa mort a laissé le chantier en plan, mais ses enfants se sont dit, tiens, si on allait chercher Moebius pour achever ça. Et puis Moebius, oui, bon, pas mal, ses dessins, tout ça, mais moi, je vous propose de faire Arzak. Arzak en dessin animé au Japon. Ça a capoté, mais il avait quand même écrit un scénario entre-temps. Et puis Ridley Scott s'y est intéressé, puis ça a capoté à nouveau, même si Ridley Scott réutilisera le personnage d'Arzak pour faire une pub pour du whisky, chose étrange qu'on peut retrouver sur Internet. Mais toujours est-il que, bah, comme un bon auteur de bande dessinée, s'il dit le cinéma, c'est bien, mais c'est long et c'est chiant, je vais en faire un livre. Et il a fait ce retour d'Arzak à l'époque, qui s'appelait Destination Tassili. Sauf que là, c'était plus du tout de l'Arzak muet, c'était de l'Arzak très bavard, avec du récit écrit par Moebius, quelque chose d'assez potache et foutraque par moment, de la bande dessinée de science-fiction assez rigolote. Et il devait faire un deuxième tome, ça devait être une trilogie, et au bout de 30 pages, il est mort. Voilà. Et ces 30 pages, on ne les avait jamais vues. Et voici que la famille Moebius, qui gère Moebius Productions, la maison familiale, sa femme et ses enfants, publient non seulement le livre d'origine, mais en enlevant tous les textes. Donc tout d'un coup, on retrouve un Arzak muet. Alors vous avez les textes à côté, mais vous n'êtes pas obligé de les lire. Et vous pouvez rêver à nouveau avec Arzak, avec ses vols. Et puis... il publie ces fameuses 30 pages en noir et blanc, qui sont absolument sublimes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, jusqu'à ces derniers moments, a une maîtrise du dessin, notamment du centre secret de son univers, qui est le désert et la roche. C'est absolument stupéfiant, à sens du détail. Enfin, voilà. C'est génial. C'est un peu l'alphare de Moebius, parce qu'en plus, comme on sait pas trop où va l'histoire, eh bien, il publie les carnets aussi, dans lesquels il lançait toutes ses idées. Il y a 4 fins possibles. On sait même pas si on n'aurait pas eu une 5e au fur et à mesure qu'il allait la dessiner et l'improviser. Mais c'est un travail éditorial très très surprenant et c'est vraiment pour les fous de Moebius, vous allez vous régaler. Ça s'appelle Arzak, Destination Tassili. Corpus final, c'est chez Moebius Productions.
Et je signale que Jean-Pierre Dionnet sera l'invité de Marie Richeux dans quelques jours pour en parler.
Et puis si je peux le dire très rapidement, peut-être que j'y reviendrai une prochaine fois, Naissance d'un dieu.
Alors là, mais vous reviendrez une prochaine fois, oui.
Là, c'est le dieu qui ferait mourir de terreur Paco Mthielman, c'est le dieu Démiurge. Imaginez un personnage d'écrivain qui soit un mélange entre Philippe K. Dick, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expérience qui lui prouve que le monde n'existe pas, et Lafayette Ron Hubbard, le créateur de la Scientologie, qui se dit « Le monde n'existe pas, oui, mais en fait il existe parce que c'est moi le dieu de ce monde, c'est moi qui l'écris dans mon livre et je vais en profiter pour faire une religion avec tous les avantages fiscaux inclus. » Ça s'appelle Electric Miles, c'est le nouveau livre de Fabien Nury et de Bruno. La couverture est extraordinaire, vous avez une sorte de bulldog cosmique devant lequel marche un homme sombre en trench coat. On en reparlera parce que ça vaut vraiment le détour. Electric Miles de Nury et Bruno, c'est chez Glénat.
Absolument, et de mon côté, j'ai quand même une préconisation à vous faire, c'est L'Hôtel de Daisy Johnson, un roman qui est paru aux éditions Stock dans la collection La Cosmopolite. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le titre L'Hôtel dit tout, c'est dans 189 pages, une sorte de compendium assez réussi, il faut le dire, de toutes les formes fantastiques d'évocation d'un lieu. Alors vous trouvez aussi bien, évidemment, à l'origine, une ferme avec une sorcière que l'on noie dans un étang, ensuite une sorte de tentative d'ériger au lieu et place de cet étang une sorte de manoir qui évoquerait presque la maison Usher d'Edgar Poe. Après, tout est détruit, un hôtel est édifié et là évidemment on retrouve l'Overlook Hotel de Kubrick et de Stephen King. C'est magnifiquement réussi. À l'origine, c'était des nouvelles commandées et lues à l'antenne par la BBC, donc Daisy Johnson, L'Hôtel, une sorte de résumé de tout ce qu'on peut faire en matière de fantastique et d'auteur et d'horreur avec un hôtel. Merci Michael Mention d'avoir été notre invité. 1500 impurs, c'est aux éditions Belfond. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Poilleret, Ludovic Cogé, Claire Poissignon, Élise Lépine, Claire-Martin Dugard, Antoine Guillot et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Boileau Narcejac et de John Carpenter en compagnie de Dominique Jeannot et de Jean-Baptiste Toré. Bonsoir à tous.